À l'occasion de la libération des ondes, il y a 40 ans, le livre que nous avons édité sur l'histoire des radios locales charentaises, Charente FM, est toujours disponible au prix de 20 euros. Témoignages, anecdotes, passions, revivez l'aventure de ces pionniers de la bande FM charentaise. Commandez dès aujourd'hui Charente FM au 05 45 95 54 95 ou à l'adresse mail rcfcharente@rcf.fr.
Et de la radio et ses 40 ans, on en parle aujourd'hui dans cette émission spéciale en compagnie de Jean-Luc Delétage, qui est avec nous depuis 15 heures, et également en compagnie de Frédéric Fay, qui nous a rejoint. Bonjour,
bonjour
Frédéric.
À tous.
Et puis au téléphone, nous a appelé à l'instant Stéphane Vincent, Radio Attitude. Vous nous écoutiez, Stéphane?
Oui, bonjour Denis, bonjour Frédéric, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Stéphane.
Ouais. Passionnant, c'est début de la, on va dire, de libération de la radio dans notre département, et Frédéric et Jean-Luc vont pouvoir vous raconter plein d'anecdotes. Ils ont été les témoins privilégiés de cette période, et notamment ils vous le raconteront certainement tout à l'heure. Ils ont été vraiment précieux puisque leur domaine de prédilection c'est la technique, et la technique était l'un des éléments phares pour que la radio fonctionne naturellement.
Bien sûr. Ouais. Alors, vous nous écoutez parce que cette émission est rediffusée aujourd'hui aussi sur Radio Attitude, hein. Et comme sur RDC d'ailleurs. Hein.
D'accord.
Faut le préciser, je l'ai pas dit aussi nettement que ça en début d'émission, même si c'est dit sur la bande-annonce. Mais c'est la fête de la radio et donc on mélange un peu tous les programmes. Hein. Ce matin sur RCF Charente était diffusé Radio Attitude comme la 16. Cet après-midi c'est Attitude et RDC qui diffusent Radio RCF Charente. Enfin, un savant mélange.
Une bonne attitude. Je ne sais pas si on aurait pu faire ce genre de choses à l'époque.
Non, c'est vrai que être diffusé simultanément sur plusieurs radios.
On faisait, nous, à 102, mais à l'encontre.
Oui.
Sans l'autorisation des autres.
Oui, il y a eu de la concurrence à l'époque. Hein, il y a eu un peu de bagarre, hein, parce que. Ouais. Il y avait des radios qui politiquement étaient pas forcément compatibles. J'entendais en voiture, tu parlais de Renaissance. Voilà, ça a été une contre-offensive, la création de Renaissance FM, parce que Radio Marguerite et d'abord Fréquence 92 était qualifiée d'être la radio de Jean-Michel Boucheron, le maire de l'époque, qui était socialiste, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Donc voilà, il y a eu ce genre d'opposition.
Oui, mais rappelons quand même que Radio Marguerite avait un financement quand même qui venait quasiment à 50-50 de la droite comme de la gauche.
Oui, il y avait un...
Par chambre de commerce, la mairie, banque, organes de presse, etc. Ouais. Le financement était quasi à 50-50.
Non, j'en profite que Stéphane soit encore au téléphone.
Vous
Parce que vous avez entendu parler des caravanes.
Oui, absolument. Alors, j'ai bien connu le site et c'est une époque complètement incroyable et surtout une aventure fabuleuse. Il faut se remettre dans le contexte. Mars 1982, il y a un passionné de radio, forain. Il avait un pousse-pousse. Il sillonnait le département avec son manège et il avait qu'une seule idée en tête, c'est de monter sa radio. Donc ce monsieur s'appelait Marcel Bureau et dans la petite commune de Coulgen, en périphérie, il a posé des caravanes et puis il a monté un studio dans un ancien camion frigo. Donc l'espace était quand même assez exigu et de bric et de broc, il a démarré sa première radio et la radio était structurée de cette...
On vous perd là, je sais pas, il y a une mauvaise liaison, Stéphane, ça coupe beaucoup. Bon, bref, on vous entend plus, tant pis, on a perdu Stéphane Vincent. Je rappelle quand même, Stéphane, que vous serez avec nous demain dans cette émission de 15h à 16h. Hein.
On sera là.
Il y aura en votre compagnie Stéphane Urbachtel, qui est journaliste à la Charente Libre, qui lui a un passé de radio, un RCI, Radio Caraïbes International. Il viendra nous parler de ça. Et puis, il y aura aussi avec nous Basile Dubon de la 16, une web radio qui tourne en ce moment en Charente. Ils seront là pour témoigner, comme sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, Jean-Luc Delétage et Frédéric Fay. Donc, vous étiez tous les deux en pleine discussion tout à l'heure.
Oui, effectivement, à l'époque, on n'aurait pas pu faire de direct en même temps. Mais par contre, à 102, nous, régulièrement, hein, mais histoire de rire, on diffusait Fréquence 92.
Mmh. Ouais.
mais avec deux commentaires par-dessus.
Ouais, c'était un peu vachard, hein. Mais bon, on est resté bons amis. Hein. Mais avec Jean-Luc, on a travaillé, on a fait des pubs ensemble, on a fait... On mettait 3 jours, quelquefois, à faire une publicité de 30 secondes, mais on a fait des trucs, on s'est bien marré, ouais.
Oui, parce qu'après 102, moi, je suis passé à 102-10. Oui. J'ai créé 102-10 avec un ami, et j'ai quitté 102-10 pour rentrer à Radio Marguerite.
C'est ça.
Ouais. Et alors, j'avais l'espoir.
C'est à Radio Marguerite, vous avez travaillé ensemble.
Oui,
c'est ça. Et pour moi, Marguerite était très importante. Car c'était la seule radio à Angoulême où il y avait des professionnels, de réels professionnels, et où il y avait du matériel professionnel, et où on pouvait m'apprendre à se servir de tout ce matériel. Et au lieu de dire « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça », c'était plutôt « fais pas ça, fais pas ci, parce que ça passera pas, tu vas voir. Ouais. Le reste, vas-y, éclate-toi, fais ce que tu veux. » Mais ça, voilà, faut pas le faire. Mais parce que on nous expliquait pourquoi, au moins.
Oui, parce qu'on découvrait plein de choses, les émetteurs, les problèmes d'excursion, il fallait au début, on n'avait pas les compresseurs, on n'avait pas tous les systèmes de traitement de son, donc il fallait, on avait au début, on voyait l'excursion dans le studio, on avait l'aiguille, il fallait pas dépasser les 75.
Surveille tes niveaux.
Voilà, c'est ça. Pour résumer, pour les émetteurs qui ne savent pas ce que c'est 75 kilos, en résumé, c'est la puissance sonore maximale que l'on peut diffuser sur un émetteur FM.
Ouais, c'est ça.
Et toutes les premières radios FM, et maintenant toutes les radios FM en France, se sont inspirées des sons américains et ont importé du matériel de traitement de son qui truquait le son pour gonfler le son, et puis amener même un certain type de son, suivant des stations de radio. Et c'est même des techniciens américains qui venaient en France régler...
Pour apporter même un grain de saturation pour...
Un grain de son, une finesse, des bases bien profondes. Et la première qui a fait ça, c'était RFM, à Paris, qui a été numéro 1 bien avant NRJ ou autre.
Ah, je crois que Stéphane Vincent nous a quittés, en fait, là, bien entendu, le téléphone raccroché. De toute façon, il sera avec nous demain, hein, toute fait, dans cette émission de 15h à 16h sur RCF Charente. Vous parliez de la couleur du son. C'est vrai que chaque radio a son son propre. Hein. Les gens ne font pas très attention.
De moins en moins.
Mais pourtant, oui, il y a une qualité de son. De moins en moins aussi, vous croyez? On a encore...
Qualité de son, c'est vraiment flagrant. Elle est de moins en moins bonne. Et en parlant de type de son, de couleur de son, ce qui me fait plaisir, parce que de la couleur du son, c'était le slogan de ma station de radio, ou WinFM. Et maintenant, tous les appareils sont en numérique. Il y a une marque qui domine le marché depuis 50 ans, c'est Optimode. Orban, pardon. Optimode, c'est un modèle.
C'est un modèle, ouais.
Et maintenant, tout le monde travaille en numérique.
Ouais.
Alors, c'est-à-dire que dès l'apparition du rouleau pour enregistrer la première petite chansonnette ou un poème même, jusqu'au phonographe, etc., avec toute l'évolution qu'il y a eu, les 45 tours dans les années 70, etc., l'apparition de la hi-fi... Et jusqu'en 80, il y a toujours eu
une progression.
Une progression au point de vue qualitatif. Toujours. Et même avec les premiers systèmes de traitement de son pour les radios, il y avait justement une amélioration énorme, quoi. Et maintenant, avec le numérique, eh bien, on vient de replonger de 40 ans. Parce que le son, ça rentre dans un entonnoir. Mais dans la grande partie de l'entonnoir. Et avec le numérique, on le fait sortir... par le tout petit bout de l'entonnoir, ça ne peut pas passer.
Enfin, ça passe, mais c'est énormément écrêté.
C'est un bout de tuyau.
Oui, il y a beaucoup moins d'amplitude. Hein.
Mais il n'y a pas d'amplitude. Le processus se tient au fonctionnement de l'oreille humaine. L'oreille humaine est très intelligente. Dès qu'un son est fort, l'oreille se protège et baisse sa sensibilité. Partant de ce principe-là, un son est fort, l'oreille se protège, on n'entend plus les sons moins forts. Ben, le MP3, le AAC, etc. C'est ce principe-là. Dès qu'un son est fort, on supprime carrément toutes les fréquences moins fortes. Et il ne nous reste plus que 15% de messages numériques au lieu d'avoir 100%. Alors déjà, le CD, c'est du numérique. Donc c'est une interprétation numérique d'un son analogique. Donc déjà, c'est moins bon, quelque part. Je ne dis pas que c'est moins bon qu'un vinyle, c'est moins bon qu'un enregistrement en analogique. Et le CD, déjà, c'est moins bon, mais alors là, on vit des...
Avec le MP3.
Le AAC...
Surtout quand on sait maintenant qu'on écoute la radio sur un téléphone portable, que le son est encore plus...
Ou un iPad, ou un...
Oui, c'est ça, maintenant on écoute des haut-parleurs qui ne font même pas la taille d'un ongle, donc sur les téléphones, donc effectivement, on n'a plus cette même approche, mais alors pour revenir à l'histoire de la radio, nous on a fait des choses terribles, parce que moi j'ai quelques anecdotes, par exemple Jean-Luc qui mixait aux Kings. On avait décidé pour un Noël d'offrir à nos auditeurs une diffusion en direct de la soirée du Kings. Mais comment faire ça? On pouvait pas tirer un câble entre les studios de Radio Marguerite et le Kings, même si à vol d'oiseau on n'était pas très loin. Donc on s'était servi d'une ligne téléphonique, d'un insert téléphonique.
Non, de deux lignes téléphoniques.
Oui, enfin deux lignes, mais il avait fallu qu'on bricole parce qu'on avait essayé de faire de la stéréo.
Mais ça marchait bien.
Et ouais, mais sauf qu'à un moment, l'émission, vers 2h, s'est coupée parce qu'on avait cramé les amplis.
Un transformateur au PTT.
Les amplis de ligne dans le central PTT avaient fumé parce qu'on avait envoyé trop de signal électrique.
Oui, mais il n'y avait qu'une seule voix. C'est-à-dire que sur Radio Marguerite, dans la voix gauche, il y avait la musique. Et dans la voix droite, il y avait tit, 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 tit. Et le truc, c'est que... sur de courtes distances, vu qu'à l'époque, le numérique n'existait pas, entre le Kings et les studios de Marguerite...
Le Kings, c'était une boîte de nuit, je le rappelle quand même, au cas où.
Rue du Sauvage, oui.
Nous aussi. Et donc les lignes n'étaient pas très très longues. Donc, par exemple, au Kings, on gonflait tous les graves à fond la caisse, et arrivé au studio, on baissait... les graves, et on remontait les aigus. Et on arrivait à avoir un son, mais plus que potable.
Musical, avec musical. Du téléphone qui n'était pas censé passer sa fréquence.
Ah, du tout. Et même les techniciens qui venaient au studio pour notre standard et tout, disaient, mais c'est impossible, ça ne peut pas marcher. Écoutez, écoutez.
Voilà, on avait réussi effectivement, en étant des autodidactes et passionnés, à faire des prouesses techniques, parce que... il y avait des choses qui n'existaient pas ou qui étaient l'apanage des grandes maisons de radio, les liaisons HF, choses comme ça. Nous, tout ça, on n'avait pas les moyens.
Et en détournant des appareils de leur utilité première,
les
égaliseurs, analyseurs de spectre prêtés par Christian Tarat de Maximum Acoustique.
Oui, c'est vrai.
Ah, on retrouve des noms.
Bah oui.
Là, on a peut-être un peu perdu les auditeurs dans des considérations techniques.
Tout à fait.
On va recentrer le dialogue. On écoute Diego Libre dans sa tête, chanté par Véronique Sanson. Véronique Sanson qui a beaucoup profité des années 80, finalement, pour percer. Frédéric Fay, on peut dire ça.
Oui, il y en a d'autres, on peut en parler. On peut parler de Jean-Jacques Goldman, parce que quand on entend, il n'y a pas longtemps, j'entendais Monique Lemarcy, directrice d'RTL, de la programmation, qui disait « Oh, mais Jean-Jacques Goldman, on l'a poussé ». Il a fait sa première télé en mars 82. Sa chanson est sortie en septembre 81. Il a fallu que les radios FM bastonnent Jean-Jacques Goldman pendant 6 mois. Pour que les télés, les médias, les radios nationales, les périphériques de l'époque et les télés commencent à s'en occuper. Au début, personne ne voulait de lui. C'était un branleur.
Alors que 2-3 ans avant, avec son groupe Typhoon, ils avaient fait un slow qui s'appelait Sister Jet.
C'est ça.
Qui passait pas à la trappe, mais presque. Mais qui était magnifique en plus. Mm-hmm. C'est l'un des rares Goldman que j'aime bien.
Bon, alors on écoute
on écoute Véronique Sanson. C'est Diego Libre dans sa tête.